réplique Les dieux ont soif d'Anatole France avec Guillaume Métayer et François Taillandier. Consacrer aujourd'hui, c'est-à-dire en pleine rentrée littéraire, une émission au roman d'Anatole France, Les dieux ont soif. Je pourrais répondre que son auteur est mort il y a juste 100 ans, le 12 octobre 1924. Mais cet anniversaire n'est pas ma seule motivation. Évariste Gamelin, l'implacable héros du livre, aimait fredonner le « ça ira ». Or, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, on a vu la reine Marie-Antoinette, fraîchement décapitée, entonner « ça ira, les aristocrates, on les pendra ». J'ai conclu de ce spectacle et de son succès qu'il fallait impérativement remettre en circulation les dieux en soif. J'ai donc invité deux éminents lecteurs d'Anatole France, François Taillandier et Guillaume Métayer. Je leur demanderai ce qui fait à leurs yeux l'importance, l'originalité et peut-être l'actualité de ce roman. Guillaume Métayer.
Oui, c'est un roman très original parce qu'Anatole France est un homme de gauche qui s'en prend pour la première fois dans les milieux socialistes et républicains qu'il fréquente, à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau, ironie suprême, au mythe révolutionnaire et surtout, en son sein, à la terreur. C'est un roman qui met en scène la terreur comme une forme de religion séculière, on peut le dire, hein, pour reprendre l'expression de Raymond Aron. C'est-à-dire qui montre qu'en réalité, en croyant faire table rase du passé, de la France d'Ancien Régime, la Révolution renoue avec de vieux démons et des anciens dieux.
François Taillandier.
Je partirai peut-être de ma découverte initiale de ce roman. J'étais assez jeune et je m'intéressais à l'époque, j'avais 17 ans, peut-être quelque chose comme ça, à ce qu'on appelait, ou ce que j'appelais moi-même, le roman historique. J'avais lu 93 de Hugo, Les Chouans de Balzac, etc. Dumas, bien entendu. Et je tombe sur ce livre, je lui tiens un roman historique sur la Révolution. Je l'ai lu et j'ai eu une grosse surprise que je n'ai peut-être pas complètement comprise sur le moment. Parce que oui, bon, il y a un fond d'histoire, bien entendu, c'est même une très belle reconstitution, je crois, du Paris de la Révolution. Mais j'ai découvert un roman. Pourquoi un roman? Parce que on est transporté dans le regard et la conscience du héros, Évariste Gamelin. Et on éprouve ce qu'il éprouve. On voit comment il en arrive. Alors c'est un jeune homme qui a tout pour lui, qui est beau garçon, qui est un jeune peintre apparemment assez talentueux. Il a une très jolie petite amie. Et il va devenir un féroce pourvoyeur de l'échafaud. Et Anatole France nous fait entrer dans sa tête. Et là, c'est pour moi, c'est plus du roman historique, c'est un roman. C'est l'art du roman.
Mais revenons à 1912. L'accueil, en effet. Dans la revue L'Atelier du Roman, à laquelle François Taillandier, vous collaborez souvent, la revue de Lakis Prokidis, Yversin écrivait « Paradoxe, dans notre littérature, c'est un écrivain dit de gauche qu'on doit la plus rude contestation du jacobinisme et de la terreur, la description la plus sceptique des héros de 93, l'analyse la plus inquiète de l'idée de révolution ». C'est un républicain Dreyfusard, admirateur de Jean Jaurès et socialiste par plaisir, qui a le plus froidement remis en cause, dans une fiction exempte de hargne comme de lyrisme, l'événement fondateur de notre histoire. Et 1912, c'est en effet le bicentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau. Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, Jaurès l'a reçu à la fois avec l'admiration qu'il portait à Anatole France, bien entendu, l'admiration pour le styliste, l'admiration pour l'historien, finalement, qui était aussi Anatole France, mais avec beaucoup de réserves sur la nostalgie qu'il a vu pointer dans ce roman. En fait, Anatole France est quelqu'un qui explique que seul le passé existe. Il est tourné vers le passé, il est tourné vers l'histoire, François Taillandier parlait de roman historique, hein, mais aussi par un goût personnel pour le passé. Il pense que le passé, au moins, a été réel, et donc est réel, alors que le possible, lui, n'est qu'une imagination, une possibilité, par définition. En réalité, Anatole France connaissait parfaitement la période révolutionnaire, parce que son père, qui avait au départ été un soldat légitimiste, s'était établi comme libraire sur le quai Malaquais et collectionnait des documents liés à la Révolution française. Donc cette impression, cet effet de réel, comme disait Barthes, de la période révolutionnaire, Anatole France le maîtrise parfaitement parce qu'il a eu en main, pendant toute son enfance, son adolescence, des documents, des livres, des gazettes, des brochures, des cartes à jouer, par exemple. Dans le roman, il y a un moment merveilleux où Évariste Gamelin a l'impression qu'il a inventé quelque chose de révolutionnaire, c'est le cas de le dire, en créant des cartes à jouer avec comme figure pour remplacer les rois Marat, Robespierre, etc. Il apporte ça au père de son amante Élodie, qui tient une boutique d'estampes, et il lui dit « J'ai découvert et j'ai une idée géniale, on va pouvoir faire fortune en vendant un jeu de cartes où les rois seront remplacés par des grands tribuns. » Ce que lui répond le père Blaise, le père d'Élodie, c'est « Tu es la troisième personne à m'apporter un tel jeu de cartes. » Anatole France avait bien sûr eu en main un jeu de cartes révolutionnaire, et il montre la banalité de son héros, la banalité de ses idées de remplacer le passé, précisément, par un lendemain qui est en train de chanter, et plutôt de déchanter au moment même où commence l'intrigue, en 1793.
Oui, une banalité, nous le verrons tout à l'heure, qui resurgira en plein XXe siècle, comme le souligne Milan Kundera dans le chapitre qu'il consacre au Dieu en soif dans Une rencontre, avec une idée de jeu de cartes où les dames, les rois, les valets seront remplacés par des stakhanovistes, des partisans ou des lénines. C'est un ami de Milan Kundera qui avait confié ce plan. Mais restons-en au roman lui-même. Anatole France n'est pas là où on l'attend. Il écrit un roman historique. Mais comme vous le dites, c'est surtout un roman dont il ne s'agit pas simplement d'une dénonciation de la terreur, mais à travers Gamelin, l'exploration d'un mystère. Comment se fait-il que cet homme qui avait tout pour lui ait basculé petit à petit dans une férocité totale? Il est juré au tribunal révolutionnaire et il condamne à mort par fournées entières. Alors, essayons justement, François Taillandier, d'élucider ce mystère.
Il y a des énigmes dans l'être humain, et celle-là est particulièrement voyante. Je relisais ce matin, avant de venir ici, les derniers chapitres de ce roman, et ça va très loin. Et ça, je l'avais un peu oublié, puisque la dernière fois que je l'ai lu, c'était il y a plusieurs années, je pense. Ça va très loin. Gamelin finit par repousser sa fiancée, Élodie, qu'il aime. Il finit par la repousser. Il dit, mais de toute façon, je suis un monstre. J'ai tout donné pour la Révolution jusqu'à devenir un monstre. Il le sait. Il le sait. Il envoie à l'échafaud l'amoureux de sa propre sœur. Oui. Il envoie à l'échafaud ce fameux...
L'amoureux qui est un émigré.
Oui, mais revenu en douce. Bon, il envoie à l'échafaud ce monsieur Brotteau des Islettes, qu'il connaît très bien, et qui est un homme parfaitement inoffensif. Simplement, Brotteau des Islettes a le malheur pour lui d'être sceptique. Au départ, il est plein de bons sentiments, il est pour la vertu, il est pour l'égalité, il est pour améliorer l'homme, l'être humain. Et il le dit, il est pour l'abolition des privilèges, les droits de l'homme, etc., etc. Et il en arrive à être tout à fait monstrueux. À la fin, dans ce que j'ai relu également tout à l'heure, lorsque Robespierre tombe, il dit « Mais nous avons été trop indulgents. » Et Robespierre a été perdu parce qu'il avait trop de mansuétude, alors qu'on a envoyé les gens à la guillotine par tombereau de 50. Quoi. Bon, alors, quelle est cette énigme? Si vous permettez, si on a le temps tout à l'heure, je vous parlerai volontiers d'Arthur Koestler. Dans « Le zéro et l'infini », vous avez... le héros s'appelle, je crois, Roubatchoff, et... Il est mis en cause, il a trahi la Révolution, enfin ceci, cela, bon, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Et il a un accusateur. cet accusateur est un homme de sa génération. Ils ont tous les deux grandi avant la révolution de 1917. Ils ont traversé cette révolution et ils se retrouvent opposés, puisque l'un est l'accusateur et l'autre l'accusé. Et il se passe une chose extraordinaire, ça c'est l'ironie puissante des choses, c'est que l'accusateur finalement va être fusillé le premier, pour d'autres motifs. Et à ce moment-là, c'est là que je voulais en venir, surgit donc un nouveau procureur ou un nouveau juge d'instruction, je ne sais pas comment il s'appelle, un certain Gletkin. Et Gletkin est un jeune homme. Et Roubachov, le héros, se dit, avec l'autre, nous étions de la même génération, nous avions connu avant la Révolution. Et ils se connaissaient même un peu les deux hommes, sans avoir été de grands amis. Et nous pouvons partager une certaine distance peut-être, éventuellement un certain humour, une certaine ironie, ou peut-être une nostalgie. On peut le partager, ça pourrait créer entre nous, même si la situation nous oppose vraiment, ça pourrait créer entre nous un reste de complicité. Avec le jeune Gletkin, ça ne marche plus. Il n'a rien connu d'autre. Et c'est pour ça que moi je fais une parenté, je ne sais pas si Kessler avait lu Anatole France, hein, mais je vois une parenté dans cette juvénilité. Gamelin, ben voilà, il y a la révolution. Il est pour, parce que ça lui paraît de beaux principes. Il est d'accord. Et il y a ce caractère entier, enthousiaste, de la jeunesse, qui peut devenir menaçant et qui devient menaçant. Parce que Gletkin sera, lui, impitoyable. S'il pouvait encore espérer quelque chose du précédent, là, Gletkin le condamne sans rémission. Voilà.
Guillaume Métayer, vous êtes d'accord avec cette analyse ?
Le caractère juvénile, notamment, de Gamelin est très important, mais je crois que Gamelin, il y a un mystère, comme vous le dites. Et par ailleurs, il y a évidemment des idées d'Anatole France, qu'on connaît par le reste de son œuvre. Et notamment, chez Anatole France, il y a une grande défiance envers l'absolu. C'est un voltairien, hein, il fait l'éloge du relatif. Et Gamelin, lui, est totalement entêté d'idées absolues, de vertus, comme vous le disiez. Hein. Et pour Anatole France, il y a une dialectique qu'il a déjà perçue entre cet excès de vertuisme, hein, d'un côté, et les réalités qu'engendre la vertu, l'idéologie, l'idée de la vertu. Hein. Il y a une phrase que je ne sais pas par cœur, malheureusement, très amusante, que Bartou citait et qui faisait rire l'auditoire, qui est « quand on veut rendre les gens nobles, libres, généreux, on est fatalement amené à vouloir les tuer tous ». Donc c'est vraiment cette dialectique, il est le premier, je dirais, l'un des premiers à avoir vraiment mis en exergue.
Je pense qu'en plus, lui, pardon, dans le roman français, avant lui, je n'ai rien vu de semblable, effectivement. Non, il introduit cette idée et qui, au cours du XXe siècle, va prendre une tragique réalité.
Exactement. Absolument. Alors, il dit, en effet, en repoussant au moment où il repousse la femme aimée, « je me suis mis hors humanité, je n'y rentrerai jamais ». Voilà. Oui, il constate, ça. En effet, qu'il est devenu un monstre.
Mais il va jusque-là et il l'assume.
Ouais. Mais s'il s'est mis hors humanité, on peut dire, par un excès d'humanité. C'est ça qui est tout à fait surprenant. C'est un bourreau sentimental. Là, on retrouve Rousseau, ou du moins sa traduction révolutionnaire, Saint-Just. Savez-vous bien que l'homme n'est point né méchant, c'est l'oppression qui est méchante. Je hais la servitude comme la source de tous les maux du genre humain, dit Rousseau. Donc, le mal n'est plus inhérent à la nature humaine. On s'est défait de l'idée de péché originel. Le mal a une adresse. C'est l'oppression, donc ce sont les oppresseurs. D'où l'idée, pour en finir avec le mal, eh bien, d'éliminer en effet les malfaisants, les méchants. Mais pour en finir avec le mal, c'est la haine, en quelque sorte, entretenue au nom de l'amour pour l'humanité écrasée, spoliée, exploitée. Donc c'est ça qui est tout à fait extraordinaire. Comment on a l'impression que l'idéologie, à partir de la Révolution, est devenue elle-même sentimentale. On s'émeut pour des abstractions. On défend le peuple, mais c'est le peuple en général, contre les oppresseurs en général. Le monde de la pluralité humaine est en quelque sorte simplifié. Robespierre, c'est le grand simplificateur. Je crois que c'est dit d'ailleurs dans le roman, le monde est simplifié, des entités s'opposent, et au nom d'un amour abstrait, si on peut dire, d'un sentiment abstrait pour le peuple, on devient féroce, on devient cruel de manière illimitée. Et c'est un peu ça que montre le roman, et c'est une manière de dire, on n'expliquera pas la terreur par les circonstances, la guerre, la pénurie. Non, il y a une logique interne que Anatole France est l'un des premiers, alors comme le dit Versan, il est de gauche, alors que Clémenceau a dit la révolution est un bloc, il est l'un des premiers à le faire apparaître, Guillaume Métayer.
Oui, et ce que vous dites me fait penser à un des grands thèmes du roman qui est la peinture. C'est-à-dire que dans la peinture, on a, dans la peinture ratée d'ailleurs, dans les peintures ratées d'Évariste Gamelin, on a cette union, cette contre-nature entre l'idéal et le sentimental. C'est-à-dire à travers notamment le schème du retour au classique. Du retour à l'antique, pardon. Le retour à l'antique, Anatole France aimait beaucoup l'antiquité, mais c'est un retour à l'antique très particulier, celui de David, celui des peintres, de ces peintres, justement, finalement, révolutionnaires et simplificateurs. À un moment, Élodie demande à Évariste ce qu'il faudrait changer dans un motif qu'elle a commencé à dessiner. Il dit qu'il faut le simplifier, comme vous le disiez. Donc, il y a dans ce thème de la peinture, il s'agit d'un peintre raté, c'est quand même quelque chose d'intéressant, quand on connaît l'histoire du XXe siècle, sans faire de raccourcis scabreux.
On ne peut pas ne pas y penser,
donc je le dis, pardon, c'est un peu, voilà, je m'exprime.
Sans réduction à d'Hitlerou, mais non, il faut quand
même...
Non, s'entendez
dans un point Godwin trop rapide, c'est tout de même intéressant, et en effet, je crois que les peintures de Gamelin montrent ça. Elle montre qu'il n'arrive pas à être sensible, véritablement, à être sensuel, notamment. Chez Anatole France, qui est un darwinien, ce qui est essentiel, c'est Eros et Thanatos, on pourrait dire, notamment Eros. D'où toute la liaison avec Élodie, qui est très intéressante de ce point de vue-là, parce qu'à certains moments, l'Eros d'Élodie se teinte de Thanatos, parce qu'elle se met à être excitée par la cruauté de son amoureux.
Des scènes sanglantes pendant les ébats. Ultime étreinte, je crois.
Elle lui en veut, cette cruauté, et en même temps... Elle est attirée. Et
finalement, cette cruauté le rend plus intéressant qu'il n'était au départ, quand il était un peu naïf, imaginait qu'elle avait été séduite par un émigré, alors qu'en réalité, c'était un petit clerc de notaire, greluchon d'une ci-devant. Donc, il y a tout cet aspect érotique qui est très important pour Anatole France, qu'on retrouve dans ses autres œuvres, dans Le Lys rouge notamment, et qui est refoulé, on pourrait dire, par Gamelin. Ça, c'est un point important aussi de sa critique. C'était, dit-on, l'écrivain préféré de Freud. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi, du refoulement de ce relatif qu'est l'Eros. Parce que finalement, Eros, c'est relatif à ce que nous sommes de manière très terrestre, à la fois comme individu et comme espèce.
Écrivain admiré par Proust.
Oui,
c'est vrai. Bergotte, le modèle de Bergotte, c'est Anatole France. Proust découvre Anatole France à l'âge de 15 ans. Il est éperdu d'admiration. Il le connaît aussi très jeune. Tout cela, il faut le garder en mémoire, étant donné l'attitude un peu condescendante qu'a notre époque à l'égard d'Anatole France. Mais François Taillandier, justement, qu'est-ce qui fait l'originalité profonde de cette lecture de la Révolution par Anatole France? J'ai sous les yeux le livre de François Furet, « Penser la Révolution française ». Et il dit « La Révolution incarne l'illusion de la politique ». Et ça, il reprend d'ailleurs une formule du jeune Marx. « Elle transforme du subi en conscient. Elle inaugure un monde où tout changement social est imputable à des forces connues, répertoriées, vivantes. Elle investit l'univers objectif de volonté subjective, c'est-à-dire de responsable ou de bouc émissaire. L'action n'y rencontre plus d'obstacles ou de limites, mais seulement des adversaires, de préférence des traîtres. » Et c'est cela, l'univers moral, qui caractérise l'explosion révolutionnaire. Or, dans Les dieux ont soif, il y a aussi cette idée qui est exprimée lorsque Anatole France dit que le conspirateur, l'agent de l'étranger, est un protée, il prend toutes les formes. Donc, on est vraiment dans la pensée du complot. Il n'y a plus d'adversité, il n'y a que des adversaires. Le mal est imputable à l'ennemi, et l'ennemi doit être détruit, quelque forme qu'il prenne. C'est bien cela, quand même, l'analyse.
Oui, il prend toutes les formes, de toute façon.
Il prend toutes les formes.
En relisant, encore une fois, on voit énumérer des gens qui sont envoyés à l'échafaud en même temps, très sommairement. Ils n'ont rien à voir avec les uns avec les autres. Ils se connaissaient même pas. Ils s'étaient jamais vus. Et on leur dit qu'ils ont comploté ensemble. Voilà, il y a le complot des prisons. Ben voilà, c'est comme ça. Vous avez dit tout à l'heure que c'était un peintre raté. Je dirais plutôt que c'est un peintre qui pourrait peut-être être doué, qui a peut-être des dispositions, mais qui gâche son art, qui il se stérilise lui-même. À force d'appliquer à son art des principes qui viennent droit de l'idéologie, il se coupe les mains, d'une certaine façon. Et ça, je crois que malheureusement, c'est arrivé à beaucoup de gens, et au cours du XXe siècle en particulier. On sait que la volonté de faire un art politique, un art qu'on disait engagé, ou du réalisme socialiste, des choses comme ça, ont été stérilisantes pour des dizaines et des dizaines d'écrivains, de peintres qui auraient peut-être pu faire beaucoup mieux que ça. Voilà, c'était ce petit... Enfin, c'est ma lecture.
Alors, vous disiez, François Taillandier, oui, qu'on trouve des gens condamnés, alors même qu'ils n'ont rien à voir les uns avec les autres, oui, et condamnés parce que la conspiration est protéiforme dans l'esprit de Gamelin et des révolutionnaires. Et ça me fait penser à deux personnages très émouvants du livre, Brotteau, dont vous avez parlé, le sceptique Brotteau, qui est un ci-devant, et le père Longuemare. Le père Longuemare, c'est un catholique intransigeant, mais très doux. Ils vont subir le même sort.
Oui, le même jour.
Le même sort, le même jour. Évidemment, on pense à un autre dialogue dans l'histoire contemporaine que vous avez préfacé, François Taillandier, oui, Monsieur Bergeret, le maître de conférence, le professeur, et l'abbé Lanteigne. L'abbé Lanteigne, dont vous dites, François Taillandier, que c'est un dogmatique, un esprit glacial et borné, et Mona Ozouf, dans le même sens, un pourfendeur de l'hérésie, un homme à système et tenant le monde pour un mauvais lieu. Et là, on pourrait avoir la même opposition. Non, parce que ils se retrouvent l'un et l'autre. Ce catholicisme de Longuemare, du père Longuemare, n'est pas persécuteur, n'est pas inquisitorial. C'est un catholicisme persécuté, d'où la tendresse qui baigne ce roman pour des personnages aussi différents, mais qui ont cette tragique communauté de destin.
Oui, il faut dire qu'Anatole France est un conciliateur et c'est un sceptique lui-même, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive à penser contre lui-même. Donc déjà, M. Bergeret n'est pas un adversaire farouche de l'abbé Lanteigne. Il y a un moment extraordinaire dans Histoire contemporaine, dans L'Orme du Mail, où Lanteigne explique que la République est le mal, elle est la diversité, elle dure mais elle n'a pas la durée, etc. Il y a un réquisitoire terrible de l'abbé Lanteigne contre la République. On s'attend à ce que le maître de conférence républicain prenne la défense du régime. Et au contraire, il prend le contre-pied de notre attente de lecteur. Il dit, elle est tout à fait comme vous la représentez, et c'est pour cela que je l'aime. Parce qu'elle gouverne peu, et je serais tenté de l'en louer plus que de toute autre chose, puisqu'elle gouverne mal. Donc dans une période peut-être un peu intercalaire comme celle que nous vivons, c'est quelque chose que je trouve
fascinant, méditer. Moi, à la fois donc le père Longuemare et Brotteau, et Bergeret et Lanteigne, c'est que tous les opposent, et ils arrivent quand même à trouver une sorte de complicité. Parce que Bergeret et Lanteigne adorent discuter tous les deux. Ils ne sont jamais d'accord sur rien. Ils se chamaillent, enfin. Mais ils en ont besoin. Et ça, c'est, je crois, la magnifique leçon, d'ouverture d'esprit, peut-être, que peut nous donner Anatole France. Et oui, on peut penser complètement différemment. Et peut-être que aussi on peut se retrouver dans le goût d'examiner ses propres idées.
Il y a un troisième personnage dans l'histoire contemporaine qui est l'abbé Guitrel, qui lui est méprisé visiblement par Anatole France parce que c'est un intrigant. C'est pas un intransigeant. Il ne développe pas des idées de manière sincère et authentique.
C'est lui qui deviendra évêque.
Et c'est lui qui deviendra évêque, évidemment.
Oui, puisque c'est l'intrigant.
Quand même, l'intransigeance du père Longuemare, qui prépare une défense dont il dit qu'elle va convaincre ses accusateurs, une défense en bonne et due forme, extrêmement érudite, et bouleversante. On ne peut pas dire que ce soit tout à fait le cas de l'abbé Lanteigne. Il y a quand même cet aspect-là des choses aussi.
Il est quand même atroce, Lanteigne. C'est un inquisiteur, ce type.
C'est un inquisiteur, ce que n'est pas le père Longuemare dans Les Dieux en soif. Mais pour aller dans votre sens, je voudrais citer un extrait du discours tenu par Anatole France à la Société des études rabelaisiennes en 1912, justement. Cet extrait, je le tire du livre de Marie-Claire Blancard, Anatole France, un sceptique passionné. Quand on étudie l'histoire des hommes, on s'aperçoit que s'ils s'entre-massacrèrent sans relâche à travers les siècles, ce furent surtout pour n'avoir pas su douter. Le doute, messieurs, c'est la paix, la douceur, la clémence, c'est la source de tout bien, la fontaine de joie. Nous croirons s'il le faut absolument. Nous croirons en doutant, nous douterons en croyant. Ne souhaitons pas que tout le monde pense comme nous, l'uniformité des sentiments serait odieuse. C'est vraiment le regard d'Anatole France, la leçon d'Anatole France.
Et je crois, François Taillandier, mais peut-être que j'anticipe un peu sur ce que vous vouliez, ce dont vous vouliez parler, il l'a payé ça, Anatole France. Il a payé cet esprit de scepticisme, d'ouverture d'esprit, de goût du dialogue. Et il a payé encore plus cher, à mon avis, le fait justement d'avoir écrit Les Dieux en soif et d'avoir mis en doute la vénération univoque de la Révolution française. Il l'a payé, les surréalistes, par exemple, maudits, crachant sur ce cadavre, etc., etc. Et je me demande si, d'une certaine façon, il ne le paye pas encore. Il a un tour d'esprit qui ne plaît jamais aux sectaires. Et malheureusement, on en connaît encore.
Oui, alors, justement, c'est intéressant de s'y arrêter. Très peu de jours après l'enterrement d'Anatole France, les jeunes surréalistes ont distribué un tract intitulé « Un cadavre ». Et Milan Kundera, dans une rencontre, s'y attarde. Aragon, nous rappelle-t-il, reproche aux morts l'ironie, Éluard, le scepticisme, l'ironie, Breton, le scepticisme, le réalisme, le manque de cœur. Et Kundera cite ce passage des Dieux en soif où Anatole France décrit les juges de la Révolution obligés à toute vitesse de condamner les accusés à mort ou de les acquitter. D'un côté, dit Anatole France, les indifférents, les tièdes, les raisonneurs, qu'aucune passion n'animait, et d'un autre côté, ceux qui se laissaient conduire par le sentiment se montraient peu accessibles à l'argumentation et jugeaient avec le cœur. Ceux-là condamnaient toujours. Conclusion de Kundera, Breton a bien vu, Anatole France ne tenait pas le cœur en grande estime. Alors peut-être avait-il tort, mais il est vrai que le cœur a été enrôlé, le cœur avec les idéologies, et depuis la Révolution française, a été mobilisé à raisonner par la violence. Et c'est un peu ça aussi que nous dit Anatole France.
Oui, quand on parlait tout à l'heure de l'éros, on pourrait répondre le corps par opposition au cœur. D'une certaine façon, Anatole France, qui est un grand admirateur de l'art antique, est un admirateur des corps représentés par, dans l'art antique, cette fois pas de cette façon caricaturale que propose Gamelin, bien sûr, hein, mais dans le grand art de l'Antiquité. Donc dans le corps, il y a peut-être plus de garanties d'être justement terrestre, relatif, comme je le disais tout à l'heure, et non pas emporté par l'idée du bien. Au fond, ce cœur, c'est une espèce de complexe qui est créé à partir de des idées et voilà. Des idées dans lesquelles on se laisse emporter en pensant qu'on suit son sentiment, alors qu'en réalité, on suit son idéologie.
Et alors, c'est intéressant parce que là, on trouve Robespierre. Nous sommes tendres pour les oppresseurs parce que nous sommes sans entrailles pour les opprimés. Il dit, il faut inverser à la tendance. Et là, j'en reviens au couple royal, à Marie-Antoinette, mais aussi Louis XVI. Le roi doit être tué en tant qu'il est roi. On n'a même pas besoin d'un procès, disait Robespierre. Louis XVI et Marie-Antoinette ont été décapités et Patrick Boucheron, le maître d'œuvre de la cérémonie, dit, rappelle que l'image que l'on garde de Londres, c'est évidemment la reine d'Angleterre qui saute en parachute dans le stade, ça, les Jeux Olympiques de Londres. Et il ajoute « Nous, nous faisons tout juste remarquer, mais sans malice, qu'en France, les reines, nous avons plutôt tendance à les décapiter. » Et je pense, peut-être un extrait tout à fait étonnant du livre d'Albert Camus, « L'homme révolté ». Il part de Louis XVI. C'est un répugnant scandale d'avoir présenté comme un grand moment de notre histoire nationale l'assassinat public d'un homme faible et bon. Il dit ça en pleine radicalité. La réalité bat son plein dans le monde intellectuel. C'est vraiment des verges c'est pour se faire battre. Et d'ailleurs, il s'est fait battre. Il s'est fait battre par Sartre, par Breton et par tant d'autres. Mais là, c'est comme si le cœur devait à nouveau s'attacher aux individus. Et l'horreur de l'idéologie, c'est le cœur pour des idées générales. Et c'est aussi une des leçons du livre d'Anatole France, François Taillandier.
Non, je pensais par rapport à l'exécution du roi et de la reine. C'est peut-être anecdotique, mais en deux mots, je voudrais vous en faire part. Je me suis trouvé de passer au printemps dernier dans une petite ville du côté du Lot, dans le Lot, je crois, qui s'appelle Terrasson. On était là un peu par hasard, on se promène. Et à Terrasson est entretenu le souvenir du conventionnel bouquier. Et j'ai regardé, c'est un peu expliqué, c'est une histoire assez drôle. Le conventionnel bouquier était donc de là-bas. C'était un jeune peintre qui s'est trouvé aux États généraux parce qu'il était très estimé dans sa province. Et puis donc, il se retrouve conventionnel et il vote la mort du roi. Par la suite, bon, il réchappe de la terreur lui-même et il revient dans sa ville natale. Et vous savez que le roi a été condamné à mort à une voix de majorité. Et ce bouquier, paraît-il, il en est fait état dans sa ville de Terrasson, toute sa vie s'est reproché d'avoir tué le roi. Il y avait une voix de trop, c'était la mienne. Enfin, c'était pas spécialement la sienne, c'est complètement absurde. Mais il a fait un complexe toute sa vie avec ça. Je me suis demandé, parce que vous disiez à juste titre que Anatole France était très érudit sur la Révolution, a-t-il eu vent de ce peintre qui était un jeune peintre apparemment de talent. On a gardé quelques dessins, quelques tableaux de lui. C'était pas génial, mais il avait connu Hubert Robert, il avait fait le voyage d'Italie. J'ai pensé tout de suite à Gamelin. Voilà. C'est peut-être parfaitement anecdotique, mais j'avais envie de vous le raconter.
Mais c'est au contraire, c'est très intéressant. Sauf que Gamelin, même s'il dit qu'il s'est mis hors humanité, n'a pas vraiment de remords.
Ah non. L'autre en a eu.
Lui en a eu. Lui en a eu.
La mort du roi.
Oui. Et alors, pour continuer dans le roman, il est fait référence aussi à la loi de Prairial, qui à un moment donné a supprimé donc, avec une sorte de bonhomie terrible, oui, dit Anatole France, toutes les formes traditionnelles de la loi, plus d'instruction, plus d'interrogatoire, plus de témoins, plus de défenseurs, l'amour de la patrie supplait à tout. Et là, effectivement, on condamnait par fournée entière, et Gamelin n'avait à ce moment-là pas d'hésitation, pas de scrupules. C'est très intéressant, et ça peut-être va nous ouvrir sur l'actualité. Hannah Arendt, parlant de la Révolution, dit « En règle générale, ce n'est pas la compassion qui se propose de modifier les conditions de vie dans le monde pour alléger les souffrances humaines, mais si elle le fait, elle évite les processus de persuasion, de négociation et de compromis interminables et interminablement fastidieux que ce qui sont ceux du droit et de la politique, et elle prête sa voix à la souffrance en soi pour exiger une action directe et simple, c'est-à-dire l'action par les moyens de la violence. » Et un peu plus loin, elle écrit « La pitié prise comme ressort de la vertu s'est révélée posséder un potentiel de cruauté supérieur à celui de la cruauté elle-même. » Et c'est un peu ce qu'on a vu, et même avec ces révolutionnaires, avec ces jurés féroces. Une pitié plus cruelle que la cruauté. Et là, je me dis que ça peut nous servir à penser l'actualité. Car la ferveur, l'impatience justicière voudrait se libérer des protocoles de la justice. Le contradictoire. la présomption d'innocence. Tout ça, ça énerve. Tout ça, ça prend trop de temps. De l'accusation à la condamnation, la conséquence devrait être immédiate. Voilà ce que certaines féministes souhaitent aujourd'hui. Un tribunal populaire, en effet, qui remplacerait le tribunal judiciaire et qui remettrait en vigueur les lois de Prairial. C'est peut-être une autre raison de lire attentivement Les Dieux ont soif. Qu'en pensez-vous, Guillaume Métayer ?
En effet, Anatole France vise les moments historiques où on commence à se débarrasser des protocoles juridiques nécessaires à une justice rendue à peu près correctement. Je pense qu'il a à l'esprit l'affaire Dreyfus. Il ne faut pas oublier qu'en effet, il vient de la gauche et il représente aussi un roman de tribunal. Et il a participé lui-même à l'affaire Dreyfus. Il a défendu Zola. Il est monté à la barre pour défendre Zola. Il a représenté dans Cringby un autre procès qui est le procès d'un petit maraîcher, un petit vendeur de fruits et légumes qui se retrouve donc devant l'appareil de la justice. Et il est donc très attentif au fait que, en effet, le cœur, comme vous le rappeliez, l'idéologie, on pourrait dire, l'impatience à condamner, qui montre du doigt toujours des usual suspects, d'une certaine façon, comment elle a tendance à vouloir s'affranchir de ces garde-fous juridiques, qui ne sont pas... Alors, il a un côté Montaigne, Anatole France aussi, donc il peut aussi se moquer de la justice, de ses lenteurs, de ses protocoles et de ses procédures. C'est dur, parfois un peu ridicule, mais il est quand même conscient, évidemment, du fait que c'est un cadre qui protège contre la fureur homicide.
Et ce qui est intéressant, vous parlez du Dreyfusisme. Et le Dreyfusisme, la question de l'affaire Dreyfus, est très présente dans l'histoire contemporaine d'Anatole France, François Taillandier. Mais c'est intéressant parce que Anatole France n'était pas exempt de préjugés anti-juifs. Il est devenu Dreyfusard, le souci de la justice l'a emporté chez lui, mais le Lys rouge, il y a un personnage secondaire, et ça m'a beaucoup frappé, j'ai sursauté. Monsieur Schmoll, de l'Académie des inscriptions, il s'adresse à ses interlocuteurs avec cette voix héréditaire, rude et grasse, dont les juifs, ses pères, pressaient leurs débiteurs. Les paysans d'Alsace, de Pologne et de Crimée. Et il va un peu plus loin. C'est une vertu de sa race. Il n'en veut pas à ceux qu'il persécute. Franchement, c'est pas mal. Mais moi, je trouve ça admirable. Cet homme avait des préjugés qui étaient les préjugés de l'époque et il s'en est affranchi devant ce cas individuel de Dreyfus. C'est vraiment porté tout à fait à son crédit, ça.
Oui. J'ai lu tout récemment, c'est un peu le hasard qu'il veut, que je crois que c'est la comtesse Greffule, qui était une grande personnalité mondaine de l'époque d'Anatole France, et cette personne avait défendu Dreyfus. Elle était Dreyfusarde, et le reste du temps, elle tenait des propos antisémites, elle se méfiait beaucoup des juifs, elle ne voyait aucune contradiction. Simplement... Elle estimait que Dreyfus n'était pas prouvé qu'il était coupable, donc elle avait pris sa défense. C'est pour dire que je pense qu'il a pu y avoir, dans ces époques-là, de grandes ambiguïtés de cet ordre.
Est-ce que Anatole France lui-même a un peu changé après l'affaire Dreyfus ?
Il a un peu changé, en effet, mais il n'était pas non plus... Là, vous avez cité cet exemple. En un sens, Worms Clavelin, et notamment la première version de Worms Clavelin, est aussi, bien sûr, affectée de traits topiques. Hein. Oui. On pourrait dire, à l'époque, simplement, ça passait pas pour des traits antisémites. Et par rapport à ce qu'écrivent les écrivains de son temps, vraiment une goutte d'eau. D'ailleurs, il s'est opposé à Drummond, dès l'apparition de La France juive, de manière extrêmement virulente. Ah oui. Donc, il a plutôt beaucoup moins de préjugés antisémites que l'époque, mais l'affaire Dreyfus marque quand même un tournant. Oui. C'est-à-dire qu'il le fait de son roman une tribune, non seulement pro-Dreyfus, mais aussi une tribune anti-antisémite. Et ça, je pense que c'est une évolution qui n'est pas propre à Anatole France, qui est l'évolution de la gauche française à l'époque. C'est-à-dire le moment où, précisément, il y a quelque chose qui reste, qui est, on pourrait dire...
Charles Péguy, c'est un peu dans le même...
Exactement.
C'est un jeune homme socialiste, etc.
C'est un moment qui fait date.
Et dans le moment Dreyfus,
lui fait prendre la gauche, la gauche est devenue dreyfusarde, alors qu'il y avait, à gauche, une certaine tradition antisémite, antisémitisme, anticapitalisme mêlé, etc. La question est de savoir... La gauche est-elle encore dreyfusarde aujourd'hui? Mais ça, c'est une question qui ne nous revient pas d'aborder aujourd'hui. Revenons.
C'est peut-être pas le moment.
Revenons précisément au roman. Au roman, donc, Gamelin finit comme ceux qu'il a condamnés. Il va à l'échafaud. Et puis, son épouse, sa chère et tendre, se console. Je voudrais que vous nous parliez de cet épilogue, l'un et l'autre, parce qu'il est bouleversant. François Taillandier.
Oui, ben, ça tombe bien, puisque j'ai relu les 30 ou 40 dernières pages du roman ce matin. Et oui, alors Élodie est absolument consternée, évidemment, par l'évolution de Gamelin, qui la repousse, et par sa mort, naturellement. Et quelques mois plus tard, je crois... Il y a un certain Philippe Desmaillis, qui était un ami de Maurice Gamelin, qui lui fait des avances, enfin, il est très amoureux d'elle. Et le roman se termine sur ça, c'est-à-dire qu'elle elle le repousse un peu d'abord, enfin, elle se fait prier quand même. Et puis un soir, elle l'accueille chez elle, bon, ils font l'amour, et il s'en va, lui, en tapinois le matin, parce qu'il ne faut pas que le père Blaise le trouve. Et ça, le roman se termine sur cette image merveilleuse de cette jeune femme qui dit, elle reposa sa tête sur l'oreiller, lasse de plaisir ou quelque chose. J'ai pas la phrase exacte en tête. Vous parliez tout à l'heure, à juste titre, du goût de France, pardon, pour la sensualité, pour le corps, pour le bonheur, physique, sensuel, enfin, la joie des sens. Et là, c'est merveilleux. Enfin, c'est une femme qui est bouleversante. Parce que c'est la vie qui gagne à travers Élodie. C'est la vie qui emporte.
C'est la vie qui emporte, mais voilà. C'est atroce en même temps.
C'est terrible.
Ces derniers mots sont en effet les derniers tisons brillaient dans l'âtre. Élodie laissa retomber sur l'oreiller sa tête heureuse, hélas. Voilà. Donc Gamelin a disparu. Il est mort, bien sûr. Il a été lui-même décapité. Mais son souvenir aussi s'efface. C'est la deuxième mort de Gamelin. Elle est sa tête heureuse, hélas, exactement comme avec lui. Et donc voilà,
c'était une structure idéologique qui en fait et le mythe de l'histoire, le mythe de la Révolution, qui en fait ne se sont pas inscrits dans la réalité de l'éros universel dont parle Anatole France. La vie, comme vous le dites, continue, parce qu'en réalité, toutes ces superstructures, toute cette logomachie, finalement, n'ont pas vraiment embrayé sur la réalité. Et Desmaillis est celui-même qui essayait de traverser la rue. Il ne pouvait pas traverser la rue à la recherche d'une jeune modiste dont il voulait faire la conquête, parce que passait un convoi révolutionnaire, un convoi qui se préparait à l'exécution d'un suspect. Donc on voit bien comment la vie... L'éros, notamment, essaye de passer à travers cette révolution et comment les superstructures verbales, idéales, idéologiques, finalement, ne peuvent pas l'emporter face à la réalité de l'espèce humaine qui est darwinienne chez Anatole France.
D'accord, mais donc il y a une dimension métaphysique terrible, c'est-à-dire la vie a le dernier mot, c'est une sorte de processus cyclique et la mort n'imprime pas. Donc moi, je trouve ça absolument terrible, puisque elle a vis-à-vis de ce peintre les mêmes gestes, les mêmes attitudes que vis-à-vis de Gamelin. Elle lui fait un petit signe, etc. Il quitte l'appartement pour que le père Blaise ne le voit pas. Donc il le remplace. Donc, si vous voulez, c'est la vie, c'est comme un perpétuel remplacement. Alors peut-être en effet que c'est une victoire sur l'idéologie, mais c'est aussi une victoire sur le sens. Une victoire, c'est, on se dit, bah oui, alors à quoi bon tout ça? C'est pour ça que moi j'ai eu le cœur serré en lisant ces dernières lignes.
Il
y a un tragique.
Voilà,
Gamelin est mort deux fois.
Voilà, Gamelin est mort deux fois.
Oui.
Donc, il est effacé.
Et la ville emporte, et puis cette jeune femme, elle a envie d'exister.
La vie dans ce qu'elle a d'obscène, je trouve.
Oui.
Quand même.
Ah oui, c'est très cruel.
C'est très cruel, oui, c'est très cruel.
L'individu est une illusion. C'est une génération qui a lu Schopenhauer, pour qui le principe d'individuation est une illusion. Donc il y a le vouloir vivre, il y a c'est proche du nihilisme en un sens. Hein. Il y a cette espèce d'énorme mouvement de tout, et les individus ne sont que des illusions qui permettent à ce grand mouvement de s'incarner dans des moments transitoires.
Et Anatole France était lecteur de Schopenhauer.
Oui, il était lecteur de Schopenhauer comme toute sa génération.
Oui. Anne-Henri l'a très bien montré, toute cette génération. Il était lecteur et donc il a été lui-même.
Il a été très influencé par Schopenhauer.
Par Schopenhauer.
Oui, absolument.
Et
le thème de l'illusion de l'individu, notamment.
Ah oui, il allait jusque-là. L'individu comme illusion.
Absolument.
Ah ben dis donc. Alors d'un autre côté.
Pas ça non plus.
Je suis très surpris, mais je voudrais revenir sur cette phrase sur le doute. Parce que est-ce que ça peut être le dernier mot d'une sagesse ? Il dit, le doute, messieurs, c'est la paix, la douceur. D'un côté, le scepticisme, est-ce que le scepticisme lui-même, s'il devient, je ne sais pas, ne risque pas lui-même de devenir dogmatique, dans la mesure où il dirait, voilà, ou déboucherait sur le tout se vaut, le tout est égal, tous les goûts sont dans la nature, sont dans la culture. Or, la pensée, c'est aussi l'aptitude à discerner le bien du mal ou le beau du laid. Et si cette aptitude disparaît au profit du doute universel, la laideur peut s'installer sans problème. Et donc, peut-on faire du doute le dernier mot du scepticisme, le dernier mot de la sagesse ?
Anatole France y a répondu d'une certaine manière à la question que vous posez par son engagement.
Oui, c'est ce que j'avais envie de dire, moi aussi. Voilà. Dreyfus et sa protestation contre la guerre. C'est-à-dire que le sceptique, dans des grands moments, se réveille et dit « Non, mais là, j'y vais plus. Le scepticisme ne fait pas tout passer. »
Le scepticisme, et quelle était l'attitude d'Anatole France, justement, au moment de la déclaration
Je vous dirai pas ça en détail, je suis moins ferré que vous sur le sujet d'Anatole France, mais il faisait partie de ceux qui ont protesté. C'est lui qui a dit notamment, je crois que la phrase est restée célèbre, « On croit mourir pour sa patrie, on meurt pour des marchands de canons ». Il disait des choses comme ça, ou des industriels, enfin bon, quelque chose comme ça.
Oui, il a un moment, en 1915, me semble-t-il, proposé que dans l'avenir, on puisse se réconcilier avec les Allemands. Et ça a fait un tel scandale qu'il a dû revenir sur ses paroles. Hein. Mais en réalité, il avait très bien compris, il était jaurésien, donc il avait très bien compris que, d'une part, cette guerre était une boucherie absurde, et d'autre part, il a très bien compris, après la guerre, que le traité de Versailles était gros d'une deuxième guerre.
Ah, il a compris ça aussi.
Il a compris ça aussi.
Ah oui.
Il a tout compris.
Il a tout compris, vous dites ça. Ah oui, vous êtes un fervent admirateur d'Anatole France, Guillaume Métayer. Et vous pensez, alors ma dernière question, qu'il est temps pour lui qu'il sorte du purgatoire, et pensez-vous que c'est possible ? Cette émission, bien sûr, va y aider, mais enfin, restons modestes. Guillaume Métayer.
Oui, je pense que c'est possible parce que, d'ailleurs, je le vois quasiment, alors certes à la Sorbonne, mais je vois mes étudiants s'intéresser à Anatole France, précisément parce qu'ils sont contents de renouer avec quelqu'un qu'on avait oublié. Ils se disent, tiens, qu'est-ce que veut dire cet oubli ? Quel est le sens de cet oubli ? Et donc, je crois qu'Anatole France a beaucoup de choses à nous dire. D'une part, c'est un médiateur. Il avait une énorme culture qu'il savait rendre accessible. C'est aussi pour cela qu'il a été si admiré en son temps. Donc à travers Anatole France, en lisant par exemple la critique littéraire d'Anatole France, on se promène à la fois dans les auteurs de son temps et dans toute l'histoire de la littérature française. C'est un très grand médiateur. Ses romans sont plus que lisibles, comme pas seulement Les dieux ont soif, mais beaucoup d'autres romans qui sont comme Histoire contemporaine, par exemple, qui sont absolument accessibles et lisibles. Et il a beaucoup de choses à nous apprendre, je pense notamment cette attitude de recul, de distance, de scepticisme éclairé.
Alors, question en post-scriptum. Les dieux en soif, ça veut dire quoi ? Comment interpréter ce titre ? Hein,
parce alors, qu'il faut... alors, c'est une très bonne question.
On termine là-dessus.
Les dieux en soif, oui, les dieux en soif de sang. Je sais pas, je sais même pas d'où ça vient, je m'étais jamais posé la question.
Ah bon, alors Guillaume Métayer, c'est tout.
Mais oui, il va nous dire ça, lui.
Surtout son contraire, mais ça vient en effet d'une expression révolutionnaire tirée de la colonisation espagnole en Amérique latine. Donc, on essaie de faire parler quand on lui dit « Dépêche-toi, les dieux ont soif ». Donc, on soif de sang, en effet. Et évidemment, Anatole France veut marquer par là qu'il considère que la politique peut devenir une forme de religion et de fanatisme. Que la politique n'est pas exempte de fanatisme. Il a écrit un premier roman révolutionnaire, « Les hôtels de la peur ». Là encore, une expression cette fois de Chénier, pour montrer comment la religion, la religiosité peut s'emparer du politique.
Je voudrais signaler juste très rapidement un autre roman de Koestler qui porte sur la fascination et la crainte du communisme, un roman de l'après-guerre, hein, et qui a été traduit sous le titre « Les hommes ont soif ».
Magnifique.
Voilà. Je pense que l'allusion était assez
claire. Jean Clair. Voilà, en effet. Merci beaucoup de cette précision, François Taillandier. Donc, nous avons traité du livre d'Anatole France, « Les dieux ont soif », qui est publié chez Calmann Lévy, avec une belle préface de Guillaume Métayer, et qu'on trouve aussi dans la collection Folio, aux éditions Gallimard. J'ai cité également l'histoire contemporaine d'Anatole France, dans La Petite Vermillon, avec une préface très intéressante de François Taillandier. Et je voudrais dire, pour finir, un mot de Benoît Dutertre, écrivain qui est mort brutalement cet été et qui était un bel héritier d'Anatole France, humour, ironie, sagesse. Et l'un de ses derniers articles, d'ailleurs, portait sur les dieux en soif. C'était donc Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amard, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui Guillaume Leplège. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Laurent Bouvet et le printemps républicain ». Mes invités seront Gilles Clavreul et Philippe Reynaud. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.